Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Il y a 8 ans, le mouvement d'émancipation qui a embrasé l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient démarrait en Tunisie. Le 17 décembre 2010, ce vent de révolte qui se répandit dans tout le pays, obligeant le président Ben Ali à fuir la Tunisie le 14 janvier 2011, se propagea en Égypte, au Yémen, en Syrie, en Libye, en Jordanie, en Algérie, avec des résultats divers, contrastés et dans certains cas particulièrement tragiques. La Syrie et le Yémen ne se sortent pas de leur trop longue et dévastatrice guerre. Seul le peuple tunisien semble avoir durablement bénéficié de ce printemps arabe, expérimentant depuis 2011 le multipartisme et l'alternance politique. Ailleurs, que reste-t-il du vent de contestation populaire? Après le printemps arabe, on parle d'automne calamiteux. Y a-t-il néanmoins des perspectives de changement? C'est ce que nous allons voir avec nos invités qui viennent de publier « Dissidents du Maghreb depuis les indépendances » aux éditions Belin. Khadija Mohsen Finan, politologue, enseignante et chercheuse en relations internationales à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du site d'information Orient 21. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Vermeuren, professeur d'histoire contemporaine à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
Il y a 8 ans, donc, démarrait la révolte tunisienne, décembre 2010, une étincelle qui s'est propagée durant l'année 2011 et au-delà, donnant naissance à ce qu'on a appelé les printemps arabes. La situation au Maghreb, qui est au centre de votre ouvrage, a été occultée ces dernières années par le Proche-Orient et les pays du Golfe, guerre en Syrie, au Yémen, sans oublier bien sûr le conflit libyen, la Libye que vous avez exclue d'ailleurs de votre étude, il serait intéressant de savoir pourquoi. Où en est le Maghreb en ce début décembre, en cette fin d'année 2018? La contestation populaire a-t-elle disparu? Pierre Vermeuren.
Non, elle ne peut pas disparaître parce que les fondamentaux, si vous voulez, on est entré dans un processus lent, un processus révolutionnaire. C'est pas une journée de barricade, c'est un processus de transformation des sociétés, des rapports au pouvoir. C'est quelque chose qui va durer. Et donc, le repositionnement du pouvoir par rapport à la population, il a eu lieu en Tunisie, d'une certaine manière. C'est pas pour ça que la situation est satisfaisante, notamment du fait que le niveau de vie des Tunisiens a eu tendance à s'effondrer depuis, mais au Maroc, en Algérie, on voit bien que il y a toujours une attente et que cet horizon d'attente, il dépend bien sûr des conjonctures, mais il est intact en quelque sorte.
Alors, on détaillera bien sûr. Khadija Mohsen Finan.
Oui, je pense que les revendications de 2010 et 2011 n'ont pas été satisfaites et que cette fracture territoriale qui était aussi en cause au moment de la révolution, ne s'est pas réduite, même en Tunisie. Donc, effectivement, les facteurs qui ont été à l'origine de ce soulèvement sont encore là. Et comme vient de le dire Pierre Vermeuren, quelquefois ça s'est accusé, c'est-à-dire que le chômage est plus important aujourd'hui, y compris en Tunisie.
Il y a d'ailleurs l'Organisation internationale du travail, puisque vous parlez d'économie, de chômage, qui souligne dans une étude récente qu'effectivement le monde arabe est le lieu sur la planète où le chômage des jeunes est le plus important au monde. On y reviendra sans doute. Peut-être ce qu'on peut approfondir, c'est les causes du mouvement initié en 2010. Et vous disiez que les facteurs à l'origine de cette révolte sont toujours là. Vous l'évoquez dans votre ouvrage, entre autres, les conséquences de la crise de 2007-2008 qui a impacté le monde entier. Juste une question, peut-être, Pierre Vermeuren, comment expliquer avec le recul que personne n'ait rien vu venir ou rien voulu voir? Vous-même, vous ne pensiez pas que le président tunisien Ben Ali serait renversé?
Non, moi j'avais écrit un livre en 2004 qui s'appelait Maghreb, la démocratie impossible, point d'interrogation, parce que ayant vécu longtemps au Maroc et en Tunisie, j'avais senti que notamment parmi la jeunesse, il y avait une très grande insatisfaction et beaucoup de revendications en termes de droits, de dignité, une très grande hostilité à la corruption ambiante, etc. Bon, mais après, si vous voulez, l'événement historique, d'abord il dépend d'un incident. L'année 2011, il y a eu 100 jeunes au Maghreb qui se sont immolés par le feu. Il y en a un qui a provoqué l'événement. L'événement en histoire, c'est quelque chose que, en général, on ne prévoit pas, parce que justement, il surgit d'une manière inopinée. Pourquoi à un moment les choses se cristallisent? C'est un grand mystère de l'histoire et il n'y a pas de règle pour en donner les prédictions et les contours. Voilà. Donc, mais par contre, sur le fond, quand vous avez des systèmes autoritaires depuis des décennies qui sont nés pourtant d'une proposition et d'une volonté libérale et démocratique au moment des indépendances, que vous avez une situation économique relativement épouvantable, comme vous l'avez dit, notamment liée au chômage, et le Maghreb est la région du monde où le chômage des diplômés est le plus important. C'est-à-dire que les chômeurs sont en majorité diplômés et souvent très diplômés. Donc il y a là une telle machine qui fabrique de la frustration, du ressentiment, et de la souffrance sociale, que effectivement les ingrédients, les conditions étaient prêtes pour une explosion. Elle a eu lieu en Tunisie, elle aurait pu avoir lieu ailleurs, d'ailleurs elle a eu lieu ailleurs, au Moyen-Orient ou en Libye, mais bien sûr les fondamentaux expliquent la dérive de cette situation, avec peut-être la goutte d'eau effectivement de 2008 et l'augmentation des prix du pain, comme toujours entre guillemets.
Donc 2008, la crise. Finalement, Khadija Mohsen Fignan, pour bien comprendre le contexte et placer cette révolte de 2011 dans le contexte historique, finalement, comment est-ce que cette révolte s'est inscrite dans l'histoire de ces pays, notamment, et Pierre Vermeulen l'évoquait à l'instant, notamment en lien avec les indépendances?
Alors, il y a eu depuis les indépendances beaucoup de révoltes, ce qu'on a appelé les émeutes du pain notamment, des manifestants aussi, beaucoup de protestations contre l'augmentation des prix des denrées alimentaires, des denrées de base. Et je crois que chaque fois, on se disait ça va peut-être donner lieu à une émeute, à une insatisfaction qui sera réprimée par l'armée, comme à chaque fois, et ça n'ira pas plus loin. Mais au fur et à mesure, si vous voulez, depuis les indépendances jusqu'à 2010, il y a eu progressivement un divorce entre les pouvoirs et la population. Et ce divorce, il s'est fait sur la base de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la corruption de plus en plus grande, l'insatisfaction des gens, le chômage qui augmente, le chômage des diplômés, ce n'est pas un hasard, puisqu'il y a une inadéquation entre l'offre d'emploi et la demande par les entreprises, le secteur privé, le secteur public ou autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait attention à tous ces secteurs. Il y avait des réponses qui étaient données, notamment vis-à-vis des jeunes. On créait des cellules du parti ou autre, mais qui ne correspondaient plus du tout aux demandes. Et je crois qu'on n'a pas été attentif à ce que voulaient les jeunes dans un monde de plus en plus globalisé, et ils étaient reliés à la mondialisation par les médias. Donc ils voyaient à la télévision, par les médias sociaux aussi, tout ce à quoi ils n'avaient pas accès. Et donc je pense que 2011, ce n'était pas simplement une demande d'amélioration des conditions économiques et sociales. Ils ont appelé ça globalement la révolution de la dignité, d'ailleurs, qui est beaucoup plus le terme utilisé, l'expression utilisée en Tunisie, que la révolution du jasmin, parce que pour eux, la dignité comprenait tout, c'est-à-dire une demande d'accès à l'emploi, une demande d'accès à la liberté, une demande d'accès à la participation politique et la prise de décision, finalement tout ce qui est constitutif de la citoyenneté. Et je pense que au fur et à mesure, plus on avançait depuis les indépendances, et plus la fracture était de plus en plus grande. Alors pourquoi la Tunisie? Je pense que ce n'est pas un hasard aussi. C'est un pays où le peuple est éduqué, et on l'a vu au niveau des slogans. Les slogans demandaient quand même des droits, et des droits inaliénables. Ce n'est pas donné à n'importe qui de demander ce type de droit. La Tunisie, c'est un pays qui n'intéressait pas beaucoup les puissances à l'étranger. Elle n'a pas de pétrole, ne présente pas d'intérêt stratégique. Donc, une série d'éléments qui ont fait que c'était plus facile peut-être que ça explose en Tunisie.
On va détailler chacun des pays que vous analysez dans l'ouvrage, hein, je les reprends, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Je voudrais revenir sur la question avec vous, Pierre Vermeulen, parce que c'est un sujet sur lequel vous vous êtes beaucoup penché. C'est la question de la décolonisation. Finalement, depuis 60 ans, c'est une histoire pour chacun de ces pays qui a été fondamentalement mal gérée.
On peut dire ça comme ça. Ce qui est certain, c'est que le mouvement anticolonial, partout, il réclamait des droits, notamment le droit à l'égalité. Égalité juridique, égalité sociale, égalité salariale, égalité devant l'école et l'éducation. Bon, et égalité politique, c'est-à-dire la citoyenneté. Or, bon, quelle que soit la configuration, pratiquement partout, l'indépendance a été, comme le dit un célèbre livre à propos de l'Algérie, confisquée, puisque des régimes autoritaires et même dictatoriaux, très souvent, ont pris le pouvoir. Et donc, finalement, ont relégué le peuple et les citoyens dans une situation qui était parfois pire que à l'époque coloniale. Bon, excusez-moi de dire ça, mais c'est vrai que c'est du point de vue de la violence politique qui a pu être déployée à certains moments de l'histoire. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu à l'époque coloniale, mais il y en a eu d'une manière incroyable, surtout vis-à-vis de citoyens nationaux. Bon, alors au début, il y avait quand même un enthousiasme collectif, il y avait des promesses de développement, il y avait un grand espoir, et puis finalement, 20 ou 30 ans après, le développement n'a pas lieu. Ou en tout cas, il a lieu d'une manière extrêmement déséquilibrée qu'on a appelé le sous-développement. Puisque le sous-développement, c'est quand même le développement pour certains, et l'accession à la richesse pour certains, et la maintien, voire l'aggravation de la misère pour d'autres. Donc, ça a fini par donner lieu à des émeutes urbaines, sociales, même rurales, dont on parlait tout à l'heure, extrêmement violentes, réprimées par l'armée, par les forces de l'ordre, causant à chaque fois des morts en grand nombre. Alors, en Algérie, il a fallu attendre 88, au Maroc, il y en a eu 65, en Tunisie ça a été plus tardif aussi, ça a été beaucoup les années 80. Voilà, donc si vous voulez, tout ça, ça a mijoté, et dans le contexte de la mondialisation, comme le disait Khadija Mohsen à l'instant, dans le contexte de la mondialisation, tout d'un coup, les Maghrébins ont vu à l'écran les révolutions éclater dans un certain nombre de pays. Il y a eu la vague démocratique des pays de l'Est, il y a eu la vague démocratique d'Amérique latine, avant ça il y avait eu celle de l'Europe du Sud, il y a des révolutions dans certains pays asiatiques et même africains. Et le monde arabe était resté finalement, et le Maghreb était resté finalement dans une position, dans une situation d'autoritarisme excessif qui a pu être rendu possible notamment dans les années 90-2000 par la lutte contre le terrorisme. Hein, ces États ont obtenu un blanc-seing pour réprimer par la force le terrorisme ou la menace islamiste, etc. Du coup, il s'en est suivi que la cocotte minute a continué à mijoter. Il en est suivi aussi des résistances politiques auxquelles on a donné le nom et la forme de la dissidence. Mais finalement, il a fallu attendre cette explosion de 2011 qui vient effectivement de très loin et qui repose les mêmes questions qu'à l'indépendance. Dignité, égalité, accès à l'emploi, niveau de vie décent, plutôt que une très grande partie, vous savez, au Maghreb aujourd'hui, de la population vit dans des conditions extraordinairement misérables. Alors, il faut pas oublier que les niveaux de vie au Maghreb, bon, le SMIG est de 100 euros partout, et ceux qui le touchent sont déjà une petite aristocratie dans certains pays. Donc, il faut quand même se rendre compte du niveau de vie extrêmement faible. Alors, c'est plus compliqué parce que beaucoup d'argent disparaît des statistiques et il circule quand même. Mais enfin, malgré tout, les niveaux de vie sont si bas et les inégalités si fortes que, au bout d'un moment, la table a été renversée. C'est ce qui s'est passé en 2011.
Et cela, on l'a un petit peu oublié parce que, comme je le disais en introduction, la situation au Maghreb a été largement occultée ces dernières années par le Proche-Orient et les pays du Golfe. Vous mettez, alors on parlera bien sûr de ces résistances politiques et la question de savoir sur quoi elles reposent, on l'abordera un tout petit peu plus tard. Je voudrais juste poursuivre avec vous, Khadija Mohsen Finan. Vous mettez en exergue dans l'ouvrage l'immobilisme du politique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui contraste avec les mutations des sociétés du Maghreb. Vous évoquez aussi ce système d'intérêts croisés entre pays du Nord et pays du Sud, système qui n'est pas sans doute pas prêt de s'arrêter sur fond de questions migratoires en particulier.
Oui, absolument, absolument. Je pense que ces autoritarismes n'auraient pas pu être ce qu'ils ont été, si ce n'était peut-être pas la complicité, c'est peut-être trop dire, mais les pays occidentaux savaient qu'il y avait cet immobilisme. Ils connaissaient la fracture entre les pouvoirs et les sociétés. On n'a pas vu venir parce qu'on s'est intéressé au Moyen-Orient. Non, je pense qu'on est censé s'intéresser à tout, surtout à une région qui est à un jet de pierre de l'Europe. Je crois qu'on s'est intéressé à tout, mais qu'on s'est dit finalement, il n'y a pas d'enjeu puisque ces pouvoirs retiennent les immigrés et qu'ils nous aident à lutter contre le terrorisme. Et c'était un mauvais calcul. Tout à l'heure, on a parlé justement de ces transitions qui se sont faites ailleurs, dans les pays d'Europe du Sud, en Europe centrale, en Amérique latine ou ailleurs. Le problème aussi, c'est que les dirigeants des pays du Maghreb ont tenu le discours de la transition. Ils ont fait semblant d'être dans la transition et ils ont envoyé justement des signes dans ce sens. Donc la frustration des populations était d'autant plus grande parce qu'ils ont vu qu'ailleurs, non seulement il y avait du changement, mais il y avait un changement qui était aidé par l'Europe, notamment pour l'Europe de l'Est, les pays anciennement de l'Empire soviétique anciennement. Or, pour eux, il n'y avait pas d'enjeu et personne ne les aidait à réaliser ce changement. Donc la décolonisation a été une promesse non tenue et ce qui s'est passé par la suite, effectivement, ne leur a pas donné satisfaction et on leur a tenu un discours de transition sans qu'il y ait un changement à la clé. Donc la frustration devenait de plus en plus grande et puis il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il y a eu un changement des économies dans les années 80 et il y a eu de plus en plus une classe qui s'est enrichie, la classe des capitaines d'entreprise ou autres, et sur le plan moral, si vous voulez, ces populations ont été d'autant plus frustrées qu'elles ont vu une classe s'enrichir, alors que les promesses de faire des études pour avoir un emploi à la clé, etc., n'avaient plus cours. Elles étaient tombées. Et donc, effectivement, on a eu des strates d'insatisfaction et de déception qui ont provoqué ce cri de colère de 2010 et 2011.
Et si vous permettez, dans les années 60-70, j'allais dire, quand ces pays étaient dirigés par des révolutionnaires au ventre vide, si j'ose dire, c'est-à-dire dont les objectifs étaient presque moraux, politiques, historiques, etc., c'était acceptable. Mais à partir du moment où le pouvoir devient un moyen d'enrichissement et de comportement mafieux et que la corruption est portée à un point insoutenable, à partir des années 80-90, en gros, quand le secteur public est devenu le secteur privé aux mains des dirigeants, eh bien là, évidemment, on accentue l'insatisfaction sociale généralisée.
Alors, je reviens à la question que je posais en début d'émission. Le fait que vous n'ayez pas traité la Libye a une raison particulière, Khadija Mohsen Fignan.
Oui, il fallait enquêter en Libye. Vous savez, ce livre est le fruit de plusieurs entretiens sur le terrain. Et il n'était pas question d'aller en Libye, pays que nous connaissons moins, qui a beaucoup changé et où l'enquête est aujourd'hui très difficile.
Pierre Vermorene.
Oui, j'adhère absolument. Non seulement, si vous voulez, le territoire libyen n'est pas vraiment accessible, mais les intellectuels libyens ne fréquentent pas beaucoup Paris. Or, nous, c'est vrai que notre travail d'enquête, on l'a fait à la fois par le travail d'entretien en France. Alors, je dis Paris, mais à Marseille ou ailleurs. Et puis par un travail d'entretien sur place. Or, les conditions de sécurité font que ce n'est guère possible d'y aller, bien sûr, sauf dans certaines conditions qui ne sont pas les nôtres. Et donc, à partir de là, on a fait ce choix assez vite. Mais c'est vrai que c'était dans notre projet au départ. Et il faudra y revenir dès que ce sera possible. C'est une évidence.
Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour vous poser une question et vous laisser surtout l'espace pour répondre. Je me permets d'introduire la deuxième partie de l'émission pour dire que on l'a évoqué, le Tunisien Ben Ali est parti et la question qui se pose est de savoir comment, dans le cas du Maroc et de l'Algérie, on peut expliquer l'endurance des oligarchies maghrébines. Est-ce que malgré cette endurance, vous diriez aujourd'hui que la monarchie marocaine et la République algérienne sont aujourd'hui plus fragiles qu'en 2011? Peut-être un début de réponse, Khadija Mohsen Fignan.
Alors, je pense que dans le cas algérien, c'est un régime à bout de souffle. On ne sait pas ce qui va advenir de ce pays au plan politique. Maintenant, dire qu'il a été fragilisé par ce qui s'est passé, les soulèvements de 2011, c'est peut-être trop s'avancer. Peut-être que ce pays a été imperméable à ces soulèvements. Dans le cas marocain, il y a eu une fragilité et le pouvoir marocain a fait semblant de changer en adoptant une autre constitution, même s'il ne s'en est pas suivi des changements réels.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. Nous retrouvons nos invités, Khadija Mohsen Fignan et Pierre Vermorene.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les pays du Maghreb. 8 ans après le mouvement d'émancipation qui a embrasé l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et qui démarrait en Tunisie en décembre 2010, nous retrouvons nos invités. Khadija Mohsen-Finan, politologue, enseignante et chercheuse en relations internationales à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du site d'information Orient 21, et Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine à Paris Panthéon-Sorbonne, Paris 1. Tous les deux sont auteurs d'un ouvrage qui vient de paraître, qui s'intitule « Dissidents du Maghreb depuis les indépendances » aux éditions Belin. Nous avons quitté la première partie de l'émission sur un début de réponse à la question de savoir si on pouvait dire aujourd'hui que la monarchie marocaine et la République algérienne étaient plus fragiles aujourd'hui qu'en 2011. Khadija Mohsen-Finan, vous évoquiez l'idée que peut-être le pouvoir algérien était juste imperméable, mais une certaine fragilisation peut-être de la monarchie marocaine ?
C'est possible, oui. Il y a eu des effets, en tout cas, avec le mouvement du 20 février qui s'est constitué à ce moment-là, immédiatement après le soulèvement qui s'est soulevé sur le territoire marocain. Il y a depuis une difficulté par le pouvoir à gérer les soulèvements, que ce soit dans le Rif, que ce soit dans l'Ouest, à Jerada ou ailleurs. Est-ce qu'on peut faire un lien avec 2011 ? C'est tout à fait possible, parce que l'image du citoyen protestataire dont on parle dans ce livre, elle a été quand même, elle a imprimé sa marque au Maroc notamment, et une relation nouvelle s'est instaurée entre les pouvoirs et ce peuple qui revendique, ou ces citoyens qui formulent des revendications, quelquefois de manière musclée.
Pierre Vermeren, alors sur l'Algérie et le Maroc, un commentaire ?
Ces deux pays ont été une sorte de glacis au moment des printemps arabes, un glacis presque immobile. Alors une fausse immobilité au Maroc, parce que effectivement il y a eu ce mouvement du 20 février qui a été quand même assez fort dans les villes et qui a déclenché la parole des citoyens dans tout le pays, beaucoup d'actions, etc. Mais grosso modo, la parade qui a été trouvée à l'époque par le roi et par le palais a finalement été comme une espèce de d'édredon. Donc en apparence, il y a eu des grands changements, la constitution, le référendum, les élections, l'arrivée des islamistes au pouvoir, le berbère constitutionnalisé, tout ce que vous voulez. Mais au fond, ça n'a absolument pas changé la gouvernance ni la réalité de la distribution des pouvoirs. Et puis l'Algérie, après quelques émeutes, la population a été littéralement noyée par les pétrodollars. C'est comme ça qu'on a aujourd'hui un boom démographique, parce que tout d'un coup, toute la jeunesse algérienne a pu se marier, acquérir une voiture, un logement et des équipements divers, à titre pratiquement gratuit, ou très souvent gratuit. Mais il faut pas mélanger les deux, parce que, si vous voulez, l'Algérie, elle a connu la guerre civile des années 90, qui a laissé une société traumatisée, qui a renforcé l'État. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la génération de l'indépendance qui avait tenu les ficelles depuis 1962, à travers la personne du président Bouteflika, aujourd'hui, elle est en train de disparaître. Il ne s'exprime plus. Son dernier discours, c'était de dire « le temps de notre génération est fini ». C'était en 2012. « Le temps de notre génération est fini, il faut laisser la main ». Bon, on en est toujours là, 6 ans après. Le pouvoir va devoir se repositionner, parce que voilà, ce ne sont plus les Moudjahidines qui dirigent l'Algérie. C'est fini, ils sont morts. Bon, alors c'est qui ? Et pourquoi ? Et au nom de quoi ? Et c'est là que se pose la question démocratique. Alors maintenant, au Maroc, question démocratique se pose différemment. C'est le roi et le souverain. Il n'est pas très contesté, mais par contre, la gouvernance, l'extrême corruption, voire l'usage de la force, même s'il est beaucoup plus modéré que par le passé, tout ça est contesté dans la société marocaine. Et c'est vrai que les insatisfactions sont à prendre en compte, sauf effectivement à repartir dans le type de révolte auquel on a assisté dans le Rif, mais qui pourrait très bien éclater ailleurs, et notamment dans certaines grandes villes, même si c'est pas tout à fait un hasard que ça a éclaté dans le Rif, comme le printemps arabe avait démarré dans le sud tunisien, parce que ce sont les régions périphériques, excentrées et complètement abandonnées par l'investissement et les pouvoirs publics depuis très longtemps.
Alors, j'en reviens à la Tunisie, et après ça on parle des dissidents. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, Khadija Mohsen-Finan, un pays plus petits, qui n'avaient peut-être pas non plus la présence géopolitique que d'autres pays comme l'Algérie et le Maroc, pour des raisons aussi de richesse de sous-sol, etc. Vous disiez que malgré les changements en Tunisie, la situation n'était pas pour autant satisfaisante.
Non, elle n'est pas satisfaisante du tout sur le plan économique et social, c'est-à-dire que rien n'a été fait dans le sens des revendications des populations. La fracture territoriale qui a été observée en 2011 est toujours là. Elle a pu s'accuser d'ailleurs. Le chômage est plus important aujourd'hui et le chômage des diplômés va jusqu'à 30-35%, donc c'est énorme. Il n'y a pas de réponse dans ce sens. Et les jeunes qui ont manifesté en 2011 n'ont pas été associés à la prise de décision politique. On le constate lors des dernières élections, ces jeunes ne votent plus. Donc ils sont en dehors du système politique, ils sont abandonnés par le système économique, ils sont à la périphérie, ils sont à la marge. Et ça, c'est un problème qui vient se rajouter justement aux revendications de 2011. Donc tout cela n'est pas pris en compte et je crois que depuis 2011, en Tunisie, on s'est beaucoup préoccupé des questions d'ordre idéologique, la place de l'islam dans le dispositif politique, comment on allait faire coexister la fraction islamiste et la fraction non islamiste, c'est peut-être trop dire que de les appeler modernistes. Je crois qu'il y a eu des avancées sur ce plan-là, des avancées sociétales, une coexistence possible parce qu'aujourd'hui les deux fractions s'acceptent mieux, donc il y a une avancée dans ce sens. En revanche, les questions économiques et sociales restent entières. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a de grandes difficultés, de grands problèmes entre le gouvernement et la centrale syndicale, l'UGTT, à augmenter les salaires puisque le pays est aidé par le FMI et qu'il y a eu des dispositions prises dans ce sens qui déplaisent totalement à la centrale syndicale. Donc il y a un bras de fer véritablement entre le gouvernement et l'UGTT. Et on va voir peut-être au mois de janvier, le mois de janvier est traditionnellement un mois très important au niveau des soulèvements d'ordre sociaux, peut-être qu'on va assister à une explosion d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.
En tout cas, parmi les acquis, mais on n'a peut-être pas le temps aujourd'hui d'en discuter plus longuement, c'est la place faite aux femmes, notamment en Tunisie. Je voudrais revenir à la question des dissidents, puisque c'est le titre de votre ouvrage « Dissidents du Maghreb depuis les indépendances ». C'est vrai que vous faites apparaître une catégorie que l'on n'avait pas imaginée. Hein. Les dissidents, c'est un nom qui a un temps désigné les opposants au régime soviétique et ses satellites d'Europe de l'Est. Qu'est-ce qui distingue un opposant d'un dissident et pourquoi ce terme dans le cas du Maghreb? Et en quoi peut-on établir un parallèle entre ce qu'ont vécu les opposants au Maghreb au cours des 60 années qui se sont écoulées depuis les indépendances et ce que vécurent les dissidents dans les pays de l'Est? Alors j'ai nommé les opposants au Maghreb, mais c'est peut-être les dissidents aussi. Bref, quelle comparaison et sur quoi repose cette comparaison, Pierre Vermeren?
Vous savez, l'idée m'est venue d'un jour, un voyage en Algérie. J'ai cherché du vin dans une ville d'Algérie, la ville de Mascara, la ville d'Abdelkader. Et je vais à l'hôtel, je lui dis, est-ce que vous avez du vin? Puisqu'il est très bon, le vin de Mascara. Et le gars me répond, monsieur, ici, t'es de l'autre côté du mur. Alors, ça a trotté dans ma tête. Je me suis dit quand même, cette anecdote, elle est intéressante. Ça veut dire quoi de l'autre côté du mur? Ben, ça veut dire que pour une partie de la population du Maghreb, pour une grande partie, il y avait l'idée selon laquelle ils étaient de l'autre côté du mur. Et qu'ils se heurtaient à un mur, justement. Parce que le mur des droits, par exemple, le mur des revendications, parce que il faut pas dire que le Maghreb, c'était l'Union soviétique, si vous voulez, il n'y avait pas de bagne, il n'y avait pas de terreur de masse. Mais en revanche, il y avait le poids d'un autoritarisme constant et l'impossibilité qui a été établie pendant très longtemps de contester normalement. Alors, bien sûr, il y avait des partis politiques au Maroc, il y avait des organisations syndicales sous couvert de l'État en Tunisie, en Algérie, etc., etc. Mais au fond, les structures de pouvoir sont restées aux mains de la génération de l'indépendance jusqu'à plus soif. Puis après, il y a eu des transmissions au sein de soit de la monarchie marocaine, soit de la génération Ben Ali en Tunisie, etc. Mais au fond, Ben Ali, c'est quelqu'un aussi qui a été formé à l'indépendance, notamment par les services militaires occidentaux. Bon, donc ce système est arrivé à bout de souffle. Et qui s'est levé contre ce système ? Alors les opposants, on les connaît, les opposants. Il y a eu d'abord les compagnons d'armes.
Alors juste un distinguo entre opposants et dissidents.
Oui, oui. Les compagnons d'armes, les socialistes révolutionnaires dans les années 60, 70, puis les islamistes, etc., qui ont construit des partis, des organisations, des associations qui se sont soulevées, qui ont parfois été exclus du jeu politique, qui parfois sont rentrés dans le jeu. Mais le dissident, ce sont d'abord des individus, ce sont pas des mouvements, ce sont pas des partis avec des organisations, des militants, ce sont des personnalités finalement qui ont une certaine autorité morale, une certaine exigence morale, et qui ont dit non au fonctionnement tel qu'il était institutionnalisé, à ce fonctionnement brutal, et qui, sur un certain nombre d'exigences, ont tenu la ligne, ont tenu le cap. Et ces gens-là, on les a eus à l'Est, on les connaît bien, mais on les a eus au Maghreb aussi. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas apparus en plein jour, si je puis dire ? Oui. Ben, la grande différence, c'est que les gouvernements occidentaux soutenaient les dissidents à l'Est, alors qu'ils soutenaient les États au Sud, et notamment au Maghreb. Donc ces dissidents, on les a souvent accueillis en Europe, à l'extérieur, en France, beaucoup ont été exilés, mais surtout, fallait pas qu'on les voie. Ils étaient obligés, astreints au silence, une fois qu'ils étaient ici. Alors, c'est compliqué, parce que ces dissidents, ce sont pas non plus des parents toujours de vertu, hein, c'est pas le but, ce sont pas des gens mieux que les autres, ce sont des gens un peu différents et qui pendant longtemps essayent de tenir une ligne. Ça veut pas dire qu'un jour ils sont pas récupérés, qu'un jour ils n'abandonnent pas, qu'un jour ils ne deviennent pas comme le président à certains égards Merzouki en Tunisie, finalement happé par le pouvoir au lendemain de la révolution, mais ces exigences morales, elles les ont portées, ça a été des demandes de droit dans tout un tas de domaines, c'est arbitraire, hein, on en a choisi quelques dizaines. On est allé les voir, on leur a dit voilà, qu'est-ce que ça a été votre combat, à quel mur vous êtes-vous affronté, etc., etc. Alors je laisse Khadija pour enchaîner parce que on peut en parler très longtemps.
Khadija Mesnefil, non. Donc finalement, sur quoi repose la résistance politique des dissidents ?
Pour ma part, c'était l'observation de ceux qui ont protesté, qui se sont soulevés en 2011. Si vous voulez, ils n'avaient pas de leader, ils n'avaient pas de chef, et en tout cas, les acteurs des principaux partis d'opposition, puisqu'il y en avait en Tunisie, n'avaient pas encadré ce soulèvement. Donc effectivement, je me suis demandé qui étaient ces gens qui étaient dans la rue et qui n'appartenaient pas à une catégorie particulière d'âge ou de catégorie sociale ou autre. Et en regardant de près, ils m'ont rappelé ces nouveaux dissidents, justement, qui, comme ça vient d'être dit, ont des exigences morales, ont beaucoup plus de liberté aussi que les opposants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas astreints à une ligne politique, ils ne rendent de compte à personne.
Ça, c'est le bienfait de leur non-appartenance.
Voilà, et ils ne veulent pas forcément prendre le pouvoir. Donc, ça nous a effectivement conduit à comparer ces acteurs nouveaux de la protestation à ce qui s'est passé ailleurs en matière de dissidence.
Ils sont nombreux ?
Alors, ils ne sont pas si nombreux que ça, et c'est pour ça qu'il nous a été très facile d'en distinguer quelques-uns, d'aller les voir, de les faire parler d'eux-mêmes, de leur parcours, mais aussi des autres, et du regard qu'ils posaient sur l'évolution des choses depuis les indépendances, une soixantaine d'années. Donc, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas identifiés.
Alors, mais comment les avez-vous précisément identifiés et comment êtes-vous entré en contact avec eux ?
Parce que ce sont les acteurs d'action de dissidence assez connue. Pour certains d'entre eux, leur nom circulait. On ne savait pas grand-chose sur eux, mais par exemple, je prends l'exemple des perspectivistes ou du groupe Perspective en Tunisie. C'est un groupe qui a joué un rôle très important, venu de la gauche, mais qui a évolué, dont les acteurs ont joué un rôle très important dans la contestation, le face-à-face avec le pouvoir. Mais en réalité, on n'a pas grand-chose d'écrit sur eux. Et on s'est dit, c'est quand même un peu problématique parce que les premiers d'entre eux, les premiers acteurs, ont aujourd'hui entre 70 et 75 ans. Ils vont mourir et on ne saura rien d'eux. Donc, on a pu les identifier à travers l'action, c'est-à-dire les nationalistes au départ, les socialistes ensuite, les islamistes aussi qui ont suivi. Et parmi eux, on a essayé de distinguer des gens, des figures qui n'étaient pas forcément affiliés à des partis politiques et qui, malgré tout, ont dit non, soit en faisant de la prison, soit en écrivant, soit en tenant tête d'une manière ou d'une autre à des pouvoirs autoritaires.
Alors, est-ce qu'ils ont été, Pierre Vermeren, est-ce qu'ils sont influents ?
Ah oui, certainement. Leur influence, si vous voulez, elle est difficilement mesurable parce qu'elle est souvent très différée. Je prends le cas, c'est un des chapitres du livre, on en a 9, je prends le cas des berbéristes. Le berbérisme, dans les années 60-70, en Algérie, c'était le colonialisme. Les colons avaient été accusés d'avoir, ou les religieux, peu importe, avaient été accusés d'avoir créé les berbères, leur langue, etc. Donc on était dans un système jacobin qui avait été créé à l'indépendance, arabiste, niant absolument toute différence, toute divergence, tout ce qui aurait pu remettre en cause l'unité du peuple algérien. Donc au début, on a eu des écrivains. On a eu des gens qui sont partis étudier en France, on a eu des gens qui ont été mis en prison, on a eu des voix vraiment qui criaient dans le désert. Mmh. Et puis, cette question, donc pendant 20 ans, on les oublie, en 25 ans, ils disparaissent. Et puis tout d'un coup, il y a l'explosion d'avril 80, le printemps berbère, qui met en avant certaines figures. Là, la revendication culturelle, identitaire, linguistique surtout, mais qui est aussi démocratique au fond, parce que justement, ça fait partie de la démocratie que d'avoir des droits culturels. Bon, et puis par étapes, si vous voulez, aujourd'hui, on a au Maroc comme en Algérie, les pouvoirs qui écrivent sur les frontons de tous les bâtiments dans une langue dont on se demande d'où elle vient, puisqu'ils ont repris des caractères tifinards qui étaient quand même assez confidentiels. Et vous avez donc une idée qui était subversive, interdite dans les années 60, même pas considérée comme révolutionnaire, considérée comme rien, et qui est devenue, à l'occasion des récents printemps berbères, une idée qui s'est imposée, c'est-à-dire que le Maghreb, bah, il est évidemment arabe, et il est aussi berbère, par son histoire, etc., mais aussi par ses langues. Voilà comment une idée qui a été lancée par des romanciers ou par des intellectuels algériens extraordinairement minoritaires dans les années 60 est devenue le sens commun aujourd'hui. Alors, les questions d'égalité, de démocratie, on voit que c'est plus compliqué que ça. Mmh. Mais en tout cas, vous me dites l'influence, oui, il y a une grande influence, et on peut reprendre la chose par d'autres exemples, évidemment.
Alors pour conclure, parce que malheureusement le temps nous indique que c'est bientôt la fin de cette émission, très rapidement, Khedija Mohsen Finan, Pierre Vermeren, est-ce qu'on peut être optimiste quant à l'émergence d'un Maghreb plus démocratique ? Khedija Mohsen Finan.
Plus démocratique, c'est peut-être difficile de parler de démocratie tout de suite, mais d'un Maghreb différent, ce serait déjà une grande avancée, avec des revendications qui sont formulées différemment, un rapport nouveau entre le pouvoir exécutif et les populations, une exigence plus grande de la part des citoyens, une exigence en matière d'avancée sociétale, économique, de liberté, ce serait déjà un changement. Et je crois que les Maghrébins ne veulent plus vivre ce qu'ils ont déjà vécu. Et c'est déjà beaucoup, même s'il y a un retour au passé, ne serait-ce qu'en Tunisie, puisque le pouvoir actuel est un mixte entre l'ancien et le nouveau. Je crois que on commence un chapitre nouveau qui ne peut pas s'appeler la démocratie, mais qui n'est plus déjà, on est peut-être sorti en Tunisie, et ça c'est sûr, de l'autoritarisme pour s'exprimer différemment, pour revendiquer différemment et pour exprimer une volonté de participation aux jeux politiques.
Pierre Vermeren.
Nous, on a voulu écrire ce livre aussi parce que, si vous voulez, on a montré que les contestations, les dissidences, elles sont permanentes, elles sont constantes dans ces sociétés et que c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles n'existent pas. Les Français ont gardé l'idée de la période coloniale selon que les sociétés du Maghreb sont ataviques, passives, tout ce que vous voulez, fatalistes et qu'il n'y a rien à faire. Et c'est vrai que ce sont quand même des pays qui économiquement et politiquement sont extraordinairement dépendants de l'Europe, notamment du point de vue économique. Mmh. Il suffit de regarder les échanges. Il n'y a pas d'échange entre eux. Tous leurs échanges, pratiquement, se font avec l'Europe. Et nos dirigeants il serait bien heureux de s'en aviser et de considérer que ces demandes d'égalité de droits fondamentaux devraient peut-être faire partie de la balance quand il y a des négociations avec le Maghreb, parce que sinon on se prépare à un avenir funeste et ces revendications très légitimes qui ont émergé en 2011, elles sont intactes. Donc le travail reste devant nous.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Khadija Mohsen-Finan, politologue, enseignante et chercheuse en relations internationales à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du site d'information Orient 21. Et Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Dissidents du Maghreb, depuis les indépendances, paru aux éditions Belin. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Pauline Le